Le bus en site propre Théor, d'un bleu azur aux couleurs des vacances, la déposa juste devant l'Institut de recherche des sciences de l'homme de Haute-Normandie. L'IRSHS se présentait comme une cathédrale de verre flambant neuve, dominant le panorama de Rouen. Depuis quelques années, l'IRSHS de Haute-Normandie, et notamment l'école doctorale Savoir, Critique, Expertise, avait connu un développement spectaculaire. Roland Berchton y était pour beaucoup. Il avait dirigé l'école et l'institut pendant plus de 10 ans. Parallèlement, la plupart de ses ouvrages scientifiques sur la géographie ésotérique étaient devenus des best-sellers, traduits dans le monde entier. Sa spécialité consistait à reconstituer les codes secrets dissimulés dans les œuvres d'art, qu'elles soient picturales, littéraires ou architecturales, et à déceler les liens spatiaux unissant ces œuvres. Les crédits régionaux, nationaux, européens avaient suivi. Et il y a moins de 2 ans, des bâtiments entièrement neufs furent érigés à la place des vétustes locaux nés avec l'université dans les années 1960. En ce samedi 12 juillet, l'université était déserte. Paloma se dirigea vers le bureau A708. Sans prendre la peine d'emprunter l'ascenseur, elle gravit d'un pas décidé les 7 étages qui menaient au bureau de l'ancien directeur de l'Institut. Il n'y avait personne dans les couloirs. Même les secrétariats semblaient désertés. Par contre, la porte du professeur Berchton était ouverte. Paloma s'avança. Le professeur ne l'avait pas remarqué, occupé à trier des documents sur son bureau. Le professeur Berchton était adorable. Tous les étudiants s'accordaient pour le dire. Il y avait même quelque chose d'incroyable à voir cet homme, sollicité dans le monde entier, être capable de passer autant de temps avec des étudiants débutants, à leur expliquer une note ou régler un problème administratif. Par contre, incontestablement, le professeur Berchton faisait peur aux étudiants. Plus exactement, il impressionnait. Sûr de lui, d'une culture sans limite, ne se trompant jamais dans ses jugements, il faisait partie de ces hommes dont on ne discute pas les décisions, et donc qui n'ont même pas besoin de les imposer. Lorsqu'il parlait, il semblait toujours du côté de l'évidence, et tout son argumentaire vous amenait presque à coup sûr à penser comme lui. Face à lui, on se sentait toujours un peu stupide. Involontairement, sans doute, cette supériorité créait une distance entre Berchton et les autres. C'est ce que pensaient les étudiants, et sans doute un certain nombre de ses collègues. Cette réaction, évoquée dans les couloirs de l'université, avait surpris Paloma. Certes, elle aussi admettait l'esprit supérieur de Berchton. Mais très souvent, elle parvenait à décoder l'ordre de ses arguments, à mettre précisément le doigt sur la partie la plus fragile de sa démonstration. Plus d'une fois, en cours, elle avait ouvertement exprimé ses divergences. Bien entendu, le professeur Berchton avait adoré la polémique. Enfin de la contradiction. Cela tranchait des autres étudiants si souvent trop sages. Surtout, Paloma avait tout de suite deviné derrière ce grand professeur d'université à la carrure imposante, au sourire carnassier et aux cheveux grisonnants coupés trop longs pour dissimuler une 50aine d'années passées, un grand enfant jouant en permanence à plaire. Ce jeu permanent de séduction amusait beaucoup Paloma, car, devant un auditoire généralement conquis d'avance, Roland Berchton était contraint à la surenchère. Paloma se plaisait à croire que le grand professeur la regardait un peu différemment des autres, grâce à son impertinence et son esprit de contradiction. Un petit sentiment de fierté qui flattait son égo. Cependant, dans l'instant, le professeur n'avait toujours pas remarqué sa visiteuse. Paloma toussa discrètement et lança « Professeur Berchton ?» Elle prit bien garde de prononcer « Berchton » à l'anglaise, comme on prononce « Jackson » ou « Washington ». Tous les étudiants imprudents qui, en cours, avaient un jour interpellé leur enseignant par un « Professeur Berchton » prononcé à la française, s'étaient fait cruellement rabrouer. Paloma n'arrivait pas à trancher. Le patronyme du professeur était-il réellement d'origine étrangère ou s'agissait-il d'une coquetterie pour le distinguer des vulgaires Berton ou Le Breton si fréquents dans le nord de la France? Le professeur ne l'avait pas entendu. Elle toussota à nouveau. Le professeur leva enfin la tête et remarqua Paloma. Entrez, je vous en prie. Il se replongea immédiatement dans ses papiers. Paloma fut un peu déçue. Elle avait enfilé un short en jean coupé très court et un t-shirt coloré moulant en lycra qui laissait deviner son ventre plat et bronzé. Il n'avait même pas laissé traîner le regard sur elle. Elle s'assit face à lui et, sans parler, sortit la pièce. Elle la déposa sur le bureau. Bergton releva la tête. « C'est bon, j'ai fini. Excusez-moi, je suis débordé ces temps-ci. Comme d'habitude, d'ailleurs. Bonjour, Paloma. Content de vous revoir. Je vous croyais reparti en Andalousie. » Paloma fronça les sourcils. « Vous ne vous rappelez plus que je suis en stage tout ce mois? C'est même vous qui me l'avez trouvé. » Bergton semblait confus. « Ah, oui, bafouilla-t-il. C'est vrai. Et je ne suis pas andalouse, enchaîna Paloma. J'habite Carthagène. » Autant pour moi. Excusez-moi, Paloma, j'ai tellement de choses à penser. Carthagène, la Murcie. Comment ai-je pu oublier Carthagène, Hannibal, les éléphants? Il baissa le regard sur la pièce. La fameuse pièce, commenta-t-il. 1905. Si seulement cela pouvait être vrai. Il avança la pièce vers ses yeux et détailla. Une couronne anglaise, début du siècle. Vous savez, ma chère Paloma, que ce genre de pièce vaut aujourd'hui une petite fortune. Paloma eut une courte pensée pour le touriste en sueur d'hier, l'honnête homme. Il continua. C'est de l'or, incontestablement. Où l'avez-vous trouvé exactement? Un touriste l'a ramassé sur l'estran à marée basse, vers Saint-Valery-en-Caux. Ouais, fit Bergton. La pièce peut donc venir de n'importe où. Vous savez que les galets se déplacent. D'Étretat jusqu'au Tréport, les vents d'ouest font dériver les galets sur près de 100 kilomètres. La pièce peut avoir été transportée avec eux. Impossible de savoir d'où elle vient. Du bord de la mer, au moins, tenta Paloma. Peut-être, continua Bergton. Ou de la poche percée d'un touriste. Ou tombée d'un voilier au large. Non, mademoiselle, ce qui est important, c'est la date. 1905. 1905 ? Demanda Paloma intriguée. Pourquoi ? Parce que, chère Paloma, j'attends ce moment depuis très longtemps, plus de 20 ans. Voici 20 ans, j'ai découvert un dossier intéressant, passionnant même. Mais faute d'indices, je n'avais aucun bout de pelote pour commencer à remonter le fil. Alors j'ai archivé et je suis parti démêler d'autres mystères partout sur la planète. Mais celui-ci me tenait particulièrement à cœur parce qu'il concernait mon petit coin de Normandie, mon petit espace natal, et plus précisément ce mystérieux triangle cauchois. Il se leva. Il commença à chercher dans une grande bibliothèque qui couvrait tout le mur. Sur les différentes étagères s'empilaient dans un très grand désordre livres, dossiers et piles de photocopies diverses. Paloma, impertinente, lança « Un dossier vieux de 20 ans, si vous parvenez à le retrouver dans tout ce bazar. » Quelques secondes plus tard, le professeur attrapait une épaisse chemise cartonnée orange. Il esquissa un sourire satisfait. « Voilà, rien ne se perd, même après 20 ans. » Paloma, savez-vous qui est né en 1905 ? Paloma ne se donna pas la peine de chercher. Vous allez être surprise. En 1905, en juillet exactement, est né Arsène Lupin. Paloma le regarda avec stupéfaction. Vous connaissez Arsène Lupin, Paloma ? Maurice Leblanc est traduit en espagnol. Oui, bien sûr. Je crois que j'ai dû lire quelques livres quand j'étais jeune ou vu des films, mais bien entendu, coupa Bergton. Lupin est sans doute l'un des 2 ou 3 héros imaginaires de la littérature française les plus célèbres dans le monde. Et de plus, Lupin est le premier ambassadeur de la Normandie. Paloma sourit, ironique. Arsène Lupin, le cambrioleur normand, né en 1905, une pièce d'or trouvée en Normandie frappée en 1905, je vois le rapport. Sauf, monsieur le professeur, que Lupin n'a jamais existé. Bien entendu, bien entendu. Bergton ouvrit son dossier orange. Sur la chemise, Paloma eut le temps de lire distinctement « Code Lupin ». Ce titre l'intrigua. Bergton regarda sa montre et soupira. « Je prends demain l'avion pour la Roumanie, très tôt le matin. Direction la Bucovine, une étonnante région moldave. J'ai comme l'idée qu'entre les fameuses 7 églises orthodoxes peintes pendant l'occupation ottomane, puis catholiques, il existe quelques mystères géographiques. C'est du moins ce qu'on me demande de trouver. J'ai d'ailleurs ma petite idée. » Il regarda Paloma. Celle-ci ne l'écoutait pas. Elle observait avec envie le dossier orange. « Mais je vous l'accorde, ça n'est pas notre sujet. » Il regarda à nouveau sa montre. « Il est 9h05, ça me laisse une bonne journée. Ça devrait être suffisant. Que faites-vous aujourd'hui, Paloma ?»«
Rien, » s'empressa-t-elle de répondre. « Bien.
Très bien. Nous avons donc une dizaine d'heures pour résoudre le code Lupin. C'est sans doute largement suffisant. » Paloma le regarda avec étonnement. « Monsieur le professeur, si une dizaine d'heures suffisent, et si cela fait 20 ans que vous avez ce dossier entre les mains, pourquoi ne l'avez-vous pas résolu avant ?»«
Tout simplement, ma chère, parce que je n'ai pas eu le temps. J'ai constitué ce dossier, je me suis dit que lorsque j'aurai une minute, je m'y pencherai. Et je n'ai jamais eu vraiment le temps depuis. J'ai archivé. La pièce d'or que vous m'avez apportée m'a rappelé ces vieux souvenirs. Quand je dis 10 heures pour trouver la solution, ça peut aussi être 10 jours. Ou 10 ans. Mais là, présentement, je n'ai que 10 heures. Et puis surtout, aujourd'hui, je pourrais bénéficier de votre esprit de déduction, chère Paloma. »
Paloma parut surprise. Le professeur insista.
« Non, non, ne niez pas. Vous avez un esprit de déduction remarquable. Vos travaux ce semestre en témoignent, bien supérieur à celui de mon cerveau fatigué. »
Paloma rougit, flattée. « Bien, » continua le professeur. « Savez-vous quel genre littéraire majeur Maurice Leblanc a laissé à la littérature ?» Paloma chercha vainement une réponse intelligente à donner. Le professeur répondit presque aussitôt à sa place. « Il a créé un genre policier particulier. Aux histoires classiques de vol, meurtre, détective, il a ajouté ce que l'on pourrait appeler un contexte. Mais chez Leblanc, le contexte ne sert pas seulement de décor, comme Londres, chez Conan Doyle, par exemple. Chez Leblanc, c'est le contexte historique et géographique qui permet de résoudre l'énigme. Leblanc lui-même reconnaissait que c'est sans doute ce qui rendait ses œuvres différentes des autres romans policiers. L'utilisation de l'histoire de France, des châteaux, des églises, des cryptes, des souterrains, des grottes, des cartes codées, des symboles ésotériques. C'est Maurice Leblanc qui a inventé ce genre littéraire. La chasse au trésor policière. Dan Brown et son Da Vinci Code, Umberto Eco et tous les autres ne sont que ses héritiers. Et cerise sur le gâteau, il a inventé ce genre littéraire en Normandie. Tout commence dans le fameux triangle cauchois. Paloma calma l'exaltation du professeur.
Mais quel est le rapport avec ma pièce de 1905 ?
J'y viens. Leblanc a imaginé 3 trésors dissimulés dans le pays de Caux. Ce sont d'ailleurs ses meilleurs romans, tout le monde s'accorde là-dessus. Le premier, L'aiguille creuse, est le plus célèbre de Maurice Leblanc. Publié en 1909, c'est le second roman de Lupin. Maurice Leblanc situe à Étretat le trésor prodigieux des rois de France. Le second, La comtesse de Cagliostro, sera publié bien plus tard, en 1923, mais raconte pourtant la toute première grande aventure d'Arsène Lupin. Maurice Leblanc dissimule près de la Seine le trésor immense des moines normands. Le troisième, La barre y va, est un des derniers romans de Leblanc en 1930. Il imagine le trésor des Romains près de l'estuaire de la Seine. Paloma prit un ton ironique.
Romains, moines, roi de France, d'accord. Mais la pièce d'or de 1905, elle provient de quel trésor ?
Roland Bergton prit brusquement un ton solennel. D'aucun des trois.
mais je suis convaincu que cette pièce d'or provient du quatrième trésor cauchois. Et si les trois premiers ont été inventés par Maurice Leblanc, le quatrième, lui, est bien réel. Et...
Bergton hésita.
Et j'ai fait l'hypothèse il y a 20 ans que les œuvres normandes de Maurice Leblanc contiennent un code permettant de localiser ce quatrième trésor.
Pardon ?
Vous avez bien entendu, Paloma. Je pense que Maurice Leblanc a laissé dans ses romans et ses nouvelles, du moins tous ceux qui évoquent la Normandie, des indices, des signes, des doubles sens qui offrent la clé du seul véritable trésor cauchois.
Et ce trésor, il proviendrait d'où ?
Je pense en avoir une idée assez précise. Votre pièce d'or la confirme. Mais cela, je vous en parlerai plus tard. Disons que je pense savoir qui a constitué ce trésor et que je pense savoir pourquoi.
Mais vous ignorez où ? Coupa Paloma, amusée.
Je l'ignore encore, mais dans 10 heures avec votre concours, je ne doute pas que...
Comment Maurice Leblanc était-il au courant ?
Coupa une nouvelle fois Paloma.
Bergton semblait amusé, lui aussi.
Impossible d'en placer une avec vous, belle impatiente. Impossible de développer le moindre raisonnement. Ne soyez pas si pressée, Paloma. Maurice Leblanc était un très fin connaisseur du pays de Caux. Cycliste accompli, il a parcouru de fond en comble à vélo toutes les routes cauchoises. Il s'intéressa de très près à l'histoire normande et en particulier à celle des manoirs cauchois. Il en collectionnait les cartes postales et en possédait plusieurs centaines. Il était fasciné par ces riches et mystérieux manoirs qui cachent leur mystère derrière d'épais talus plantés. Et puis n'oublions pas que Leblanc s'inspira souvent dans ses œuvres de faits divers réels. Il adorait mêler la réalité et la fiction. Vrais lieux ou lieux inventés ou déplacés. Vrais noms et noms inventés ou déformés. Vrais faits divers ou faits divers inventés ou romancés. Maurice Leblanc lisait les chroniques judiciaires, discutait. Posséder des relations dans la police et la justice.
Que voulez-vous dire ?
Pas si vite, Paloma. Je vous en dirai plus lorsque ce sera utile. Sachez simplement que ce quatrième trésor, en fait le seul bien réel, dont vous venez de m'apporter la preuve, ne fut pas accumulé par des Romains, des moines ou des rois.
Par qui alors ?
Je peux juste vous dire qu'il s'agit d'un trésor bien réel amassé par des hommes bien vivants du temps de Leblanc. Un vol ? Un crime, c'est ce qu'il nous faut découvrir.
Maurice Leblanc en connaissait l'existence ?
Oui. Par peur des représailles, par jeu aussi sans doute, il préféra coder ses révélations, détourner l'attention. C'est la règle d'or de Lupin.
Roland Bergton regarda sa montre. Ma chère Paloma, je ne voudrais pas vous presser, mais nous avons désormais moins de 10 heures pour découvrir ce quatrième trésor. Comment comptez-vous vous y prendre ?
Oh, c'est très simple. Il suffit de marcher dans les pas de Lupin.